Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Et on est avec Nicole Gibault. Nicole, salut.
Bonjour Geneviève.
Bon, on s'était parlé là il y a quelques mois d'un psychoéducateur qui avait ramené une fillette d'Afrique pour en faire visiblement son esclave sexuelle. Il appelait même sa mère pour se plaindre là quand elle n'obtempérait pas à ses désirs. Il lui faisait signer des contrats comme quoi il devait se soumettre tout le temps à ses désirs. Et en échange de tout ça, il donnait de l'argent à sa mère pour qu'elle ait accès à de l'eau potable. Là, la poursuite demande jusqu'à 15 ans de pénitencier pour lui. Puis c'est ça. Là, on fait un retour sur cette affaire-là parce que, écoute, ça continue encore de révolter bien des gens.
Ben, ça continue à révolter, surtout, les faits révoltent, sont répugnants, sont horribles, c'est absolument dégueulasse. On se pense en 2021 ou en 20, que ce soit en l'an 2000, que quelque chose du genre nous arrive et qu'on fasse. Puis qu'on ne l'ait pas vu passer.
Échanger contre de l'eau, là.
Non, mais on ne l'a même pas vu passer, cet enfant-là. Comment s'est-elle rendue au Canada de cette façon-là? Parce que, bon, on l'a, et c'est par hasard parce que on faisait une enquête sur la pornographie juvénile. On pensait jamais qu'il y avait une esclave dans cette maison-là. Elle faisait 3 ans. Les voisins n'ont rien vu. En tout cas, bon, c'est ce qu'on appelle que le filet de sécurité n'a pas fonctionné du tout, là, parce que c'est quand même une mineure, un enfant de 8 ans, là, qui se promenait dans, j'imagine. En tout cas, c'est désolant. Mais oui, la couronne demande 15 ans. Et je suis très heureuse que la couronne demande 15 ans. Mais c'est fort des enseignements. On en parle depuis longtemps, depuis 2020 ensemble, qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui est très fort. Là. C'est l'arrêt Friesen. L'arrêt Friesen, là, on va voir que le juge, je suis certaine, il va l'appliquer. Il n'y a même pas le choix, c'est la Cour suprême. Et le juge, la Cour suprême dit dans ça, là, allez-y, là, des sentences de 10, et je cite, là, de 10 à 15 ans ne devraient même pas être écartées maintenant, de 10 à 15 ans. Donc, fort de ces enseignements-là, avec les faits qu'il y a là, qui sont maintenant d'une atrocité, là, tout ce qui a fait sa vulnérabilité, sa mère voulait de l'eau pour vivre, et elle a dû, pour des raisons X, on la jugera pas, vendre son enfant, elle veut. C'est épouvantable, puis c'est un psycho-éducateur. On va juste pas oublier ça, là, que Villemer est un psycho-éducateur, puis on ajoute à ceci, il se représente seul, il a le droit, mais je peux-tu dire que il n'y a absolument aucun remords, ce monsieur-là. Il trouve ça long, puis il est bien tanné d'être en prison.
Oui, c'est les procédures, parce qu'il est dans détention préventive, ce pauvre petit chat.
C'est fatigant. Il y a d'autres choses à faire, dit-il. Oui, j'imagine.
Comme quoi? S'acheter un autre enfant en Afrique?
Ben, garde, ce qu'on veut pas, là, c'est que ce monsieur-là s'en sorte du tout, mais pour une très, très longue période. Puis c'est pour ça qu'on a doublé cette demande. Ou enfin, non, on l'a pas. La couronne songe sérieusement, probablement, à demander qu'il soit délinquant dangereux, déclaré délinquant dangereux. Pourquoi? Parce que d'abord, on est au maximum des sévices en agression sexuelle qu'on a commis sur un enfant de 8 ans. On parle pas là, d'un presque majeur, là. On parle de 8 ans. C'est de l'asservissement total de l'enfant. Alors, on veut aller au maximum, on veut probablement demander qu'il soit délinquant dangereux, et j'y vois aucun problème. C'est le genre de dossier où on n'aurait pas d'objection à jeter la clé, là, tu sais. C'est comme, il veut pas.
Mais surtout avec le discours qu'il tient, je veux dire.
Non, mais il reconnaît pas. Moi, quelqu'un qui a du remords, qui s'excuse, même à la dernière limite, etc. Mais non, là, c'est presque baveux, je m'excuse de.
Mais t'as raison.
C'est presque
baveux. C'est déplacé.
De se présenter devant la cour puis de dire, ben, qu'est-ce, j'ai d'autres choses à faire, j'ai une autre vie. J'ai une autre vie. Non, t'es en prison parce que t'as eu une esclave de 8 ans au Canada pendant 3 ans de temps et que tu vas nécessairement écoper d'une très longue période de détention. Alors, si on le déclare délinquant dangereux, ben là, il n'y a pas de période de détention fixe. C'est-à-dire qu'il pourrait rester dans 15, 20 puis 30 ans. Il n'y a rien de fixe comme tel. Oui, on va le reviser régulièrement, mais c'est pas quelque chose qui c'est le plus haut, le plus gros, la plus grosse peine qu'il pourrait pas recevoir, c'est d'être déclaré délinquant dangereux avec une très forte peine de 10 à 15 ans. On verra bien comment le juge va réagir dans ce dossier-là, mais il met rien dans son jeu là. Rien pour l'aider, mais rien.
Tu sais, Nicole, on dirait que ça nous rentre pas dans la tête que l'esclavagisme ça existe au Canada en 2021, mais c'est le cas. Tu sais, bon, là on a le cas d'une jeune fille qui est exploitée sexuellement par un homme, mais il faut pas oublier toutes les, et puis il y a eu des reportages là-dessus en quantité là, des aides familiales qui ont été rentrées au Canada via l'aide d'un programme fédéral du gouvernement qui travaille des heures absolument indues puis qui souvent se font agresser sexuellement par les personnes qui les embauchent, qui se font exploiter aussi physiquement, qui se font harceler. Ça existe chez nous. Ça se passe là.
Et toutes ces situations-là sont, c'est évidemment, c'est épouvantable, mais là, on parle du maximum.
Ouais.
De l'ultra maximum, là. Un enfant de 8 ans, là. On comprend les autres situations et que oui, ça doit être. Il n'y a aucune personne qui devrait être toute personne devrait être imputable de ce genre de geste, que ce soit adulte, d'un autre pays qui nous aide dans les travaux, etc. Peu importe. Mais là, un enfant de 8 ans, non.
On revient sur ces fameuses dénonciations qui ont lieu sur les médias sociaux. Il y a un étudiant, pardon, de l'Université Concordia qui poursuit en diffamation de Montréalaise qui a allégué sur les médias sociaux qu'il l'avait agressé sexuellement. Lui demande 60 000 $ en dommages et intérêts. Dit que sa réputation a été entachée. Ce qu'elle a dit, cette personne-là, c'est que l'accusé en question, ben le présumé accusé, il n'y a même pas, en tout cas, je sais plus comment les appeler. Oui, c'est ça. Tu sais, on sait plus. Lui aurait agrippé la poitrine. Lui, il nie ça. Il dit que c'est jamais arrivé. Il lui a demandé d'enlever la publication. Il n'a jamais voulu. Et là, c'est ça, il la poursuit.
Oui, c'est une poursuite civile. Alors, lui est requérant. L'autre personne va être. Alors, oui, 60 000 de dommages. Puis c'est ça le problème. C'est que quand on fait des dénonciations, faut assumer les conséquences. Ça, c'est une des conséquences qui peut arriver.
Mm-hmm. On le vit avec 100 000 aussi.
C'est ça. Alors, c'est pas ici, on parle pas dehors de tout doute raisonnable, on parle d'une preuve par prépondérance de preuves. Mm-hmm. Et ce qui m'a interpellée dans ce dossier-là aussi, c'est que apparemment, et c'est je lis parce que c'est entre guillemets, alors on dit c'est ce qui est allégué par lui en parlant de la jeune fille, la défendresse qui est elle, demande à tous ses amis de partager et encourager ceux-ci à répandre de fausses rumeurs. Mais là, on a un problème. Puis ça, c'est entre guillemets, c'est pas le journaliste semble rapporter les propos qu'il a lus dans la requête introductive d'instance. Alors, on verra comment ça va être discuté devant la cour. Mais oui, ça prend une faute, un dommage, un lien de causalité. Puis si elle a évidemment fait ce genre de dénonciation à tort et qu'elle elle a brimé les, tu sais, vraiment cette personne-là en souffre et a des dommages, ben oui, il peut avoir un lien de causalité, puis elle peut être trouvée responsable de payer des dommages à ce monsieur-là.
Nicole, merci. Et ça m'amène à parler d'un truc que j'ai vu dans Le Devoir ce matin. Bon, par rapport toujours à cette histoire de Marie-Pierre Morin, un nouveau hashtag, j'ai changé moi aussi en réponse à la place qu'ont les présumés agresseurs dans l'espace public. Il y a des gens qui sont pas contents qu'on donne la parole à des personnes qui font l'objet d'allégations. Cette lettre-là là, qui a été publiée dans la section ID signée par Alexandra Dupuis, Mélanie Lemay, Zoéane Côté et Jessie Nadeau, parle d'une reprise de contrôle du discours. Là. Et à ce sujet, il y a une page qui a été créée sur Instagram, mais pas une page, un compte qui s'appelle « J'ai changé moi aussi ». Et vraiment, l'objectif, c'est de montrer que les agresseurs ne sont pas les seules personnes à changer lorsque ces dernières commettent des actes violents. C'est-à-dire que les victimes aussi s'en trouvent changées. Souvent, évidemment, doivent vivre avec les conséquences de leurs gestes, des gestes qui ont été posés envers elles jusqu'à la fin de leur jour. Et tu sais, je regarde ça aller, puis le nombre d'abonnés grossit de minute en minute. Puis il y a des témoignages un peu comme on avait vu cet été dans la foulée des dénonciations. Et tu sais, il y a deux affaires là-dedans. La première, c'est évidemment avec ce qu'on a vu avec Dis son nom, on se dit c'est risqué, ces personnes-là s'exposent à des poursuites. Puis c'est dommage parce que quand tu prends la parole publiquement comme ça, la dernière chose dont tu as besoin, c'est de te retrouver devant les tribunaux pour aller te défendre par rapport à ce que tu dis sur les médias sociaux. Mais quand même, ça demeure excessivement problématique qu'on en vienne à utiliser des plateformes comme ça pour partager nos histoires parce que les victimes ont l'impression de ne pas être entendues. T'sais, à un moment donné, il va falloir se questionner pourquoi les victimes ont l'air de penser que le système de justice ne fonctionne pas, ne va pas les écouter. Puis tantôt, je vais vous le dire, là, on va parler avec Brigitte Jobin, qui est une survivante de la violence conjugale. Elle, pour elle, le système a fonctionné. À un moment donné, il faudra mettre de l'avant ces histoires-là qui fonctionnent et se demander aussi pourquoi. Pourquoi on donne la parole dans l'espace public à des gens qui font l'objet d'allégations terribles? Pourquoi on leur pardonne aussi facilement? Puis là, je vise pas particulièrement Marie-Pierre Morin. On l'a vu dans bien des cas. Là. On a tendance à passer à un autre appel très, très rapidement. Mais les victimes, elles, restent avec leurs histoires et n'en ont pas souvent de tribune. Donc ça aussi, il faudrait peut-être y voir.